France Musique. C'est l'été sur France Musique. Grand Large, Priscille Lafitte.
Cinquième journée de cette croisière autour de la Méditerranée. Montez à bord, respirez l'air du grand large. Nous retournons aujourd'hui en Espagne. Ramon Montoya est difficile à persuader a priori. Il pense qu'enregistrer un disque de solo de guitare flamenca est une mauvaise idée, que c'est invendable. Des disques de grand format, des 30 cm, comme pour la grande musique, comme pour Wanda Landowska, Pau Casals ou Fritz Kreisler, c'est insensé. Cela ne s'est jamais fait. Nous sommes au début de l'année 1936 et Ramon Montoya est déjà le roi des tocaores. Il multiplie les concerts, seul avec sa Leona, une guitare fabriquée par le luthier Santos Hernández. Il accompagne aussi les plus grandes chanteuses, telles que la Niña de los Penes, la Argentinita ou la Joselito. Le mécène et artiste mexicain Marius de Zayas finit par le convaincre de venir enregistrer à Paris. Un contrat de 6 disques est ainsi signé et un concert organisé au Casino de Biarritz pour lancer l'artiste. La date prévue est le 29 juillet 1936. Or, le 21, la frontière se ferme, c'est le début de la guerre civile. Le concert est reporté au 7 septembre. Montoya réussit à quitter Madrid et arrive dans un Biarritz où affluent les réfugiés républicains. Le concert est un triomphe. Pablo Casals est en pleine répétition avec son orchestre. Souvenez-vous, cette phalange qu'il a créée en 1920. Casals est devenu une figure de la Deuxième République d'Espagne fondée en 1931, une figure de l'indépendance catalane. À Barcelone, une rue porte même son nom. Ce soir du 18 juillet 1936, l'orchestra Pau Casals se prépare à jouer la 9e symphonie de Beethoven pour l'ouverture des Olympiades populaires. Les Olympiades populaires sont une réplique des Jeux olympiques qui se tiennent à Berlin cette même année. La République espagnole refuse d'envoyer des athlètes dans l'Allemagne nazie et organise donc de son côté des Jeux antifascistes à Barcelone dans le stade de Montjuïc. Des milliers d'athlètes venus de 22 pays, essentiellement de France et d'Espagne, convergent vers la ville. La plupart des sportifs sont membres d'associations sportives ouvrières et peu d'entre eux appartiennent aux fédérations sportives officielles. La veille de ces Jeux, alors que l'orchestre de Pablo Casals travaille en vue de la cérémonie d'ouverture, un émissaire du gouvernement républicain interrompt la répétition. Des généraux fascistes ont pris la tête de l'armée espagnole du Maroc. Les casernes sont en effervescence, une insurrection militaire se prépare, les troupes de Franco s'apprêtent à marcher sur Barcelone. Casals fait silence et dit à ses musiciens « Comme je ne sais pas quand nous pourrons nous réunir à nouveau, je vous propose d'exécuter jusqu'au bout la symphonie avant de nous séparer. » Thank you. La répétition s'achève sur l'ode à la joie. Dans les rues de Barcelone éclatent les premiers coups de feu. L'orchestre se disperse. Casals fait le serment de diriger cette 9e symphonie dès que la situation sera apaisée. Il n'en aura jamais l'occasion. La Santa Espina est un vieux chant catalan repris par les combattants républicains. Ici, une cobla de Barcelone interprète cette sardane de la liberté. Des singularités du répertoire de la guerre civile espagnole, c'est l'incroyable richesse de son cancionero, l'ensemble des chansons qui ont quotidiennement rythmé le conflit. Des hymnes, des marches, des chansons populaires revisitées, des chants de combat et des chants révolutionnaires internationaux.
Puente de los franceses, puente de los franceses. a nadie que pasa, porque eres un miliciano, porque eres un miliciano, porque eres un miliciano, mamita mía, que bien.
France Musique, Grand Large, Priscille Lafitte.
Couplet de la Défense de Madrid, suivi d'une version instrumentale d'El Segadors, chant de ralliement des Républicains devenu l'hymne catalan. L'enregistrement, que l'on entend ici, est dirigé par Gustavo Pitaluga. Pitaluga fait partie de ces compositeurs qui continuent à écrire pendant la guerre des chants populaires, une zarzuela, et des arrangements de chants républicains qu'il enregistre à Paris au printemps 1938 avec Rodolfo Halffter. Ainsi ce Que sera, une chanson dont les paroles sont réécrites en hommage aux marins républicains qui combattent sur la mer. Qu'en sera-t-il? Que se passera-t-il? C'est la marine espagnole en train de combattre.
¿Qué pasará? ¡Ay, qué habrá pasado!
¡Carruja Mussolini! ¡Suspira Franco! ¡Suspira Franco! ¿Para qué tantos humos, tantos farores? Si nuestros marineros son españoles, ¿qué será? ¡Ay, qué pasará! ¿Qué estará pasando? ¡La marina española que está luchando! ¡Que está luchando!
¿Qué será?
Le réseau musical pro-républicain s'organise. Un conseil central de la musique supervise la création d'un orchestre national doté de 112 instrumentistes et s'assure que des œuvres espagnoles sont programmées à chaque concert. Un concours de chants de guerre est organisé. L'homme qui orchestre cette volonté politique se nomme Rodolfo Halffter, chef de file du groupe des 8. Huit compositeurs qui se sont fait connaître au début des années 30 pour leur ambition à rénover la musique espagnole, la débarrasser de son folklore et aller vers plus de modernisme.
Thank you.
Rodolfo Halffter, dont on entend ici le quatuor à cordes, s'oppose à une ligne plus néoclassique, tenue par Joaquín Turina et Julio Gómez. Joaquín Turina, lui, se range du côté des phalangistes. Cela n'empêchera pas plusieurs générations de musiciens de jouer sa musique, comme ici Alicia de la Rocha.
Thank you.
autre compositeur à rallier les phalangistes, Ernesto Halffter, chef d'orchestre et compositeur qu'on entendait un peu plus tôt dans cette série Grand Large, dirigée des œuvres de Manuel de Falla et son orchestre bétique. Il est le frère cadet de Rodolfo Halffter, grand instigateur d'une politique musicale républicaine. Tout oppose les deux frères. Rodolfo est un républicain convaincu, tandis qu'Ernesto prête allégeance aux troupes franquistes, sans toutefois être complètement adoubé, car suspecté d'être du mauvais bord, c'est-à-dire juif et franc-maçon. Nous entendons ici une pièce pour piano qu'il a écrite en hommage à son frère Rodolfo Halffter après la guerre. France Musique, Grand Large, Priscille Lafitte. Thank you. Quant à Manuel de Falla, dont on entend ici la première des danses espagnoles sous l'archet de Yascha Ifetz, sa position politique est plus insaisissable encore. Le compositeur est choqué par l'anticléricalisme affiché par les autorités de la Seconde République. Il se tient à l'écart de la politique. Il préfère se cloîtrer à Grenade, travailler à un oratorio, quand éclate le coup d'État militaire. Les combats ont lieu jusque devant sa porte et Grenade tombe vite aux mains des franquistes le 23 juillet 1936. Falla a, juste auparavant, accepté d'harmoniser un chant des Almogavares, sur lequel des nouvelles paroles ont été accolées à la gloire du franquisme. C'est l'hymno martial. C'est alors que Falla apprend l'arrestation de son ami Federico Garcia Lorca. Il voudrait intervenir, plaider en faveur du poète et dramaturge, se prévaloir de cette chanson hymno martial pour avoir du poids auprès des phalangistes. Il est trop tard. Lorca a été fusillé à l'aube.
Viva Sevilla, viva Sevilla. Viva Sevilla, lleva la sevillana en la mandilla un letrero que dice Viva Sevilla. Vivan los trianeros, los de Triana, vivan los sevillanos y sevillanas. Viva Triana, vivan los trianeros, los de Triana, vivan sevillanos y sevillanas.
Federico Garcia Lorca au piano accompagne La Argentinita dans l'une des chansons populaires espagnoles qu'il couche sur partition. Ces canciones españolas rencontrent une grande popularité et seront maintes fois reprises et enregistrées, notamment par Teresa Berganza. Pendant la guerre civile espagnole, Teresa Berganza n'est encore qu'une enfant qui va chanter en prison pour son père, détenu pour ses convictions républicaines.
Thank you.
Nombre de compositeurs feront connaître les textes poétiques et théâtraux de Federico Garcia Lorca, lui qui est fusillé en 1936 pour ses convictions républicaines et en raison de son homosexualité. Jaume Paissa, que l'on entend ici dans sa suite intertonale, écrit une cantate en hommage à Lorca. Paissa est un des fervents défenseurs de la cause républicaine en Catalogne. C'est d'ailleurs l'une de ses œuvres qui avait été choisie pour le concert inaugural de l'Orchestra Pau Casals en 1920. Pablo Casals est encore à Barcelone alors que la ville est à feu et à sang. Les anarchistes font régner une terreur rouge, les règlements de compte sont légion. En 6 semaines, 75 000 personnes trouvent la mort en Catalogne dans un élan de folie collective, de crimes et de pillages. Casals n'est pas à l'abri d'un règlement de compte, son nom est d'ailleurs inscrit sur une liste de condamnés à mort. Il se résout à partir et honore un contrat pour enregistrer les suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach à Londres et à Paris. Des années se sont écoulées entre le moment où le jeune Pablo Casals, âgé de 13 ans, dépoussiérait cette partition trouvée dans le bac d'un marchand à Barcelone et ses séances d'enregistrement. Il les jouait en concert souvent. Les voici donc gravés alors que la Catalogne s'abîme dans la guerre civile. Le violoncelliste revient plusieurs fois en Catalogne pour jouer dans les hôpitaux, les orphelinats, les théâtres. Le dernier concert qu'il donne dans son pays date d'octobre 1938 au Grand Théâtre Liceu de Barcelone. Il doit jouer les concertos pour violoncelle de Haydn et de Dvorak. Or, les répétitions sont bouleversées par des bombardements de l'aviation de Franco. Alors que les musiciens s'apprêtent à remballer leurs instruments pour quitter les lieux, Casals se met à jouer une suite de Bach.
Thank you.
La chanson de la bataille de l'Ebre, ce fleuve qui coupe l'Espagne au nord, est censée encourager les combattants. Mais en novembre 1938, la bataille de l'Ebre est définitivement perdue, malgré tous les efforts et les ruses déployés par le camp républicain. En janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des troupes franquistes. Près d'un demi-million de Catalans traversent les Pyrénées pour trouver refuge de l'autre côté de la frontière. Ils se heurtent à l'inhospitalité et à l'indifférence des Français. Pablo Casals s'établit à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Il refuse l'offre des États-Unis de s'exiler outre-Atlantique et préfère rester au plus près de la Catalogne et de son peuple. Il se dépense sans compter dans le soutien humanitaire aux républicains en déshérence. Dans le même temps, Barcelone voit revenir le compositeur Joaquín Rodrigo, franquiste notoire, qui crée en 1940 son concerto d'Aranjuez, immense succès du répertoire pour guitare. Rodrigo savait-il au moins qu'à Aranjuez avait eu lieu justement des exécutions sommaires perpétrées par les troupes nationalistes. Nous reviendrons un peu plus tard, au cours de notre tour de Méditerranée, à Prades, pour entendre Pablo Casals. Mais laissons-lui le dernier mot. C'est à partir de son exil dans les Pyrénées françaises qu'il prend l'habitude de clore chacun de ses concerts par une mélodie traditionnelle catalane, El Cant dels Ocells, le chant des oiseaux, en soutien à ses compatriotes exilés. Voici ce chant des oiseaux dans une archive inédite qui date de 1961. Pablo Casals joue à Tel Aviv aux côtés de l'Orchestre philharmonique d'Israël. Un orchestre né en décembre 1936 sous la baguette d'Arturo Toscanini, l'année donc où éclate la guerre d'Espagne. Merci à toute l'équipe qui a œuvré pour rendre possible cet épisode de Grand Large. Pierre Monteil à la technique, Félix Levaché à la réalisation, Pauline Boisaubert pour la documentation et la mise en ligne. Merci à la discothèque de Radio France. Merci également à la Fondation Pablo Casals de nous avoir ouvert leurs archives et permis la diffusion de cette 9e symphonie de Beethoven enregistrée par Casals à Porto Rico en 1963 et le Chant des oiseaux interprété par Casals le 16 septembre 1961 à Tel Aviv pour le premier festival d'Israël. À la semaine prochaine pour poursuivre ce tour de Méditerranée. Bon week-end à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.